Nicolas Bavrès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, économiste, avocat. La visite de Xi Jinping à Moscou lundi dernier et le choix de Vladimir Poutine de favoriser le yuan au détriment du dollar dans les paiements entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, est-ce que ça vous conforte dans votre vision ? À l'avenir, ce sera démocratie contre empire autoritaire.
Bien sûr, donc cette visite, elle est importante et elle est un pas de plus vers le rapprochement entre la Chine de Xi Jinping et puis la Russie de Vladimir Poutine. Il a été question évidemment d'énergie, mais il a été aussi question d'électronique, il a été question de manœuvres militaires. Donc on n'a pas encore une alliance véritablement soudée, mais clairement c'est vraiment un axe qui se met en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'automaticité d'aide militaire de l'un vers l'autre. En revanche, l'alignement politique est très clair et le message qui a été envoyé est un message très clairement d'opposition à la démocratie et à l'Occident. Et ce qui est important, c'est aussi le contexte dans lequel cette visite s'inscrit, puisque d'un côté, Xi Jinping a mis en place sa nouvelle équipe autour d'un pouvoir absolu. La Chine venait juste d'opérer et de parrainer la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui montre bien son offensive via le Sud pour essayer d'encercler l'Occident. Et puis de l'autre côté, Vladimir Poutine venait d'être inculpé par la Cour pénale internationale. Et c'est bien une manière aussi de marquer que ces empires autoritaires ne reconnaissent plus l'ordre mondial qui a été instauré en 1945 et qu'il considère comme inféodé à l'Occident. Et il n'en reconnaît pas la légitimité, ni les institutions, ni les règles.
Vous dites que nous vivons actuellement un basculement du monde. Quel est-il exactement ?
Le basculement du monde, il est d'abord le basculement de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire que c'est la fin de ce qu'on avait cru être un moment de triomphe de la démocratie, de marché et de la paix, et qui a été en fait qu'un nouvel entre-deux-guerres.
C'est la fin du communisme en Union soviétique.
Exactement.
C'est la chute du mur de Berlin et la libération
89,
de tous les pays. 89,
chute du mur, 91, effondrement de l'Union soviétique. Et là, finalement, on s'est installé dans un système, on pourrait dire qu'on a considéré que la guerre était impossible et la paix était acquise pour l'éternité. En fait, il y a eu beaucoup de chocs. Il y a eu le choc de 2001 avec les attaques contre les tours du World Trade Center. Derrière, il y a eu les guerres enlisées et perdues d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, pour nous de Libye et du Sahel. Il y a ensuite eu le krach boursier. Il y a eu le premier signal majeur qui était l'invasion de la Crimée par la Russie. Et puis, il y a eu la pandémie de Covid. Mais on est resté aveugle devant tous ces chocs et on a cru que cette période, effectivement, continuerait. Et en réalité, aujourd'hui, on est dans un système complètement inversé, c'est-à-dire que c'est la paix qui est impossible et la guerre est omniprésente.
Mais
elle est présente sous forme de haute intensité et sous forme de guerre hybride. Puis, il y a une autre chose qui a changé aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le cycle économique. On avait la mondialisation, la baisse des frontières, les marchés qui prenaient le pouvoir contre les États. Le monde a complètement changé avec l'enchaînement Covid et guerre d'Ukraine. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se fragmente par blocs, des blocs qui sont des blocs idéologiques, politiques, militaires, mais aussi technologiques, juridiques, avec les systèmes de sanctions réciproques. On est dans un monde où l'inflation est de retour. Et donc, la structure de l'économie mondiale a aussi complètement basculé.
Mais qu'est-ce qui a mal tourné exactement pour nous, j'entends Nicolas Bavrès, parce que vous l'avez dit, la question semblait réglée à la fin de la guerre froide, la démocratie avait triomphé. L'ordre mondial, le nouvel ordre mondial à l'époque, hein, c'était le père de George W. Bush qui avait employé cette expression, était prêt de s'installer. À l'époque, la Russie était tout à fait d'accord, la Chine n'en était pas l'ennemi, elle entrait à l'Organisation mondiale du commerce, tout semblait réunir enfin toute la planète autour de plus en plus de liberté, à la fois commerciale et politique.
En fait, ça a été une grande illusion. Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, Nietzsche avait raison, c'est le siècle des grandes guerres conduites au nom des idéologies. On a trois guerres mondiales, et la dernière qui s'est dénouée par l'effondrement l'Union soviétique.
Donc la guerre froide, qui n'est pas
exactement
tout à fait une guerre mondiale.
On a deux paix ratées, 1918, qui mène donc le traité de Versailles contesté, et qui est un simple sursis avant une autre grand conflit mondial. Et 89 aussi a été une paix ratée. 45 a été une paix réussie. Pourquoi ? Parce que d'abord, les vaincus ont accepté leur défaite et ont accepté de se remettre en cause profondément. C'est principalement l'Allemagne et le Japon. Deuxièmement, le vainqueur a accepté de reconstruire, y compris les vaincus. Et puis, il y a eu une acceptation, la mise en place d'un système, d'un ordre international, alors qui était récusé par l'Union soviétique, mais qui était accepté par une autre large partie du monde. En 89, on n'a rien de tout ça. Ce qu'on a très bien vu avec Vladimir Poutine qui l'a dit, non seulement les Russes n'ont pas accepté l'effondrement de l'Union soviétique, mais Vladimir Poutine a explicitement dit que c'était la plus grande catastrophe historique
que les Occidentaux n'avaient pas tenu leurs promesses, qu'au lieu de se contenter de coexister avec la Russie, ils l'ont humilié.
Mais ça, c'est tout à fait faux. Si on regarde la vérité, c'est que la Russie a été intégrée dans le Conseil de l'Europe, elle a été intégrée dans l'OMC, un partenariat a été fait avec l'OTAN. Il a fallu très longtemps, il a fallu la Crimée, mais en réalité, la Russie a été réintégrée de plein droit dans la communauté internationale. Mais elle a fait des choix sous Vladimir Poutine, et elle a eu une évolution qui était une évolution de retour à un système qui n'est pas le totalitarisme, parce qu'on n'a pas le goulag de masse, mais qui est un système. On a des élections qui sont manipulées, et on a eu de plus en plus le retour à un système fondé sur le mensonge et la terreur et la désinformation. C'est ce qu'on voit, aujourd'hui. Mais ce qu'on a manqué et qui était très important, c'est que la grande illusion, la grande faute des démocraties, c'est d'avoir cru qu'on pouvait mettre le monde en pilotage automatique et ce qu'on a appelé la politique des dividendes de la paix. C'est-à-dire contrairement à 45, on ne s'est pas donné la peine d'investir pour organiser le monde. On a voulu tirer des profits de court terme, profits de la paix et profits du capitalisme de bulle. Et c'est ça qui a donné tous ces chocs et ces catastrophes qui mènent à une situation. Et c'est vrai que la comparaison avec l'entre-deux-guerres les années 20 et 30 est assez fascinante. C'est-à-dire que en 1918 aussi, on a l'impression que les démocraties ont gagné. Et en 39, on a des pouvoirs autoritaires ou totalitaires partout en Europe.
On fait une pause, Nicolas Bavrez, et on va voir ce qui risque de se passer maintenant, à l'avenir.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Nicolas Bavrez qui publie « Démocratie contre empire autoritaire » aux éditions de l'Observatoire. Nicolas Bavrez, la confrontation que vous annoncez entre les démocraties et les empires autoritaires, est-ce qu'elle peut se résoudre d'une autre façon que par une troisième guerre mondiale ?
Alors, heureusement, oui, mais ça suppose que les démocraties mettent en place une stratégie adaptée. D'abord, elle a déjà commencé parce que, en réalité, la Russie, elle est en guerre avec l'Ukraine depuis 2014. Et la Russie, elle mène une guerre hybride contre l'Europe, avec l'énergie et le gaz, avec l'alimentation, avec la manipulation des migrants, avec la désinformation, avec le financement des partis populistes, avec la menace aussi militaire ou les attaques contre les infrastructures essentielles. Donc ça fait quand même...
Oui, nous, on est co-belligérants aussi dans cette affaire. On arme l'Ukraine.
Alors, on arme, mais on n'est pas co-belligérants. Co-belligérants, il faut être clair, ça veut dire qu'on a des soldats sur le terrain, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais tout ça pour dire que cette idée de confrontation... Ce n'est pas une idée d'avenir ou ce n'est pas une hypothèse. C'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Alors, est-ce qu'une troisième guerre mondiale est inéluctable ? Non, je ferai la comparaison avec après 45. Après 45, au début de la guerre froide, avec une extrême tension, tout le monde est persuadé qu'on va vers une troisième guerre mondiale et ensuite, y compris dans une dimension nucléaire, une fois que
on le croit l'Union particulièrement soviétique... pendant la guerre de Corée, d'ailleurs.
Évidemment, 50-54 pendant la guerre de Corée. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? C'est intéressant, il y a un diplomate américain qui s'appelait Kennan, qui en 1946 a fait ce qu'on a appelé le long télégramme, il était ambassadeur à Moscou. Et dans ce long télégramme, il y avait les choses suivantes. Premièrement, il faut qu'on ait conscience de ce que c'est que l'Union soviétique, donc il n'y a pas de possibilité d'accord, la politique de Roosevelt ne mène à rien. Deuxièmement, il faut donc cantonner militairement l'Union soviétique. Troisièmement, il faut à tout prix éviter l'escalade et une troisième guerre mondiale. Et quatrièmement, il faut maintenir des liens avec la société russe parce qu'un jour ou l'autre, il est vraisemblable que ce système bougera de l'intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, les démocraties doivent réfléchir. On n'est pas dans la situation de 1945, par exemple. C'est vrai que les États-Unis sont à la fois surpuissants et très fragiles. Donc, ce n'est pas l'Amérique de 1945. L'idée que ce soit les États-Unis qui pilotent tout est une mauvaise idée. En revanche, on pourrait avoir trois piliers, un pilier nord-américain, un pilier européen et un pilier avec les démocraties asiatiques. C'est vrai qu'il faut faire du cantonnement militaire et technologique. Il faut évidemment éviter l'escalade, ce qui pour l'instant est quand même fait à peu près de part et d'autre en Ukraine, puisque les Ukrainiens ont du matériel occidental, mais qu'il n'y a pas de frappe sur le territoire russe avec du matériel occidental, et qu'à l'inverse, pour l'instant, les Russes veillent à ne pas frapper le territoire OTAN. Et que par ailleurs, entre les Chinois et beaucoup d'autres, on dit qu'il n'était pas question de recourir et de faire une escalade nucléaire. Il faut le troisième point qui est très important, les deux derniers points qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est très important de maintenir un lien avec la société civile en Russie et en Chine. C'est très important, parce que ces régimes sont quand même très différents et qui peuvent bouger différemment, d'être attentif le moment où des dissensions vont forcément apparaître, parce qu'il y a une telle inégalité. Et par exemple, aujourd'hui, la Chine est quand même en train de pousser la Russie en dehors de toute l'Asie centrale. Donc, il y a des tensions également entre les deux. Et c'est vrai que si un jour, il y a une possibilité de casser cet axe, ce sera très, très important. Et puis, ce que j'ai dit, il ne faut pas perdre le Sud. C'est très important. Et il y a des pays qui sont clés. L'Inde, pourquoi ? Parce que l'Inde est dans une position, un dilemme terrible. Son principal adversaire, c'est la Chine. À cause de sa masse démographique, puisque maintenant, l'Inde est plus peuplée que la Chine, c'est un des rares pays qui peut inquiéter la Chine, y compris sur ce plan-là. Et l'Inde, jusqu'à présent, s'approvisionnait principalement en Russie pour les armes. Évidemment, c'est le rapprochement et la connivence entre Moscou et Pékin est un problème majeur pour l'Inde. Et donc, il faut essayer de désarmer le plus possible le ressentiment anti-occidental de l'Inde. Et puis, elle ne s'alignera jamais sur l'Occident, mais elle peut être un point d'appui extrêmement précis. Et là, on a quand même des choses à faire, parce que on ne s'occupe pas des problèmes des pays du Sud. C'est vrai que pendant la pandémie, une fois qu'on a trouvé la solution qui était les vaccins, il faut quand même reconnaître que les pays développés ont été extrêmement égoïstes et qu'on a peu pris en compte les problèmes du Sud. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité majeurs en Afrique et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à y répondre. Il y a des problèmes de développement industriel, il y a des problèmes de réchauffement climatique pour lesquels, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on aide beaucoup. Et il y a des problèmes majeurs de dette. Donc, les pays du Sud retrouveront un dialogue apaisé avec les pays et les démocraties occidentales quand on prendra aussi un peu en compte, et même beaucoup en compte, leurs préoccupations, et qu'on essaiera de contribuer à les aider à résoudre leurs problèmes concrets au lieu de projeter nos problèmes sur eux.
Merci Nicolas Bavrez. Je rappelle le titre de votre livre « Démocratie contre empire autoritaire ». Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire.